Voilà, j'arrive, il est 15h30. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a pas mal de gens qui me posent des questions en matière de bibliographie. Allez surtout consulter les dictionnaires, en fait, pour compléter les cours. Et tout le reste, tout ce que je vous indique, c'est absolument pas obligatoire. C'est juste pour le plaisir de lire et d'en savoir davantage, mais pas pour les examens, d'accord? Là, je vois que vous êtes franchement moins nombreux. Ça m'inquiète parce que, généralement, les étudiants partent plutôt après les examens. Et voilà, donc... Bon. Alors, je vais prendre la question de la demoiselle. Oui, vous pouvez m'enregistrer, bien sûr. Merci. Enfin, merci de me... Pas de m'enregistrer, mais de me le dire.
Bonne nuit.
Ah oui, c'est vrai qu'avec vous, on en est juste, donc... un point nouveau. Finalement, j'ai trouvé la solution. Quand un groupe est plus en avance que l'autre, je lui donne plus de temps de repos dans l'heure et demie. Je trouve que c'est pas mal comme solution. En tout cas, aujourd'hui, je ne voudrais pas prendre davantage de retard. Ah non, là, je suis dans le cours 2. Donc, j'attends que vous vous concentriez. Et on en est juste au point 1-2, n'est-ce pas? On avait donc fini tout ce qui concerne la Chine des Tangs. Je crois. Vous avez bien parlé des conquêtes des Tangs à partir des années 630.
Oui.
Ok. Et de cette ville cosmopolite qui est Chang'an. Ok, bon, j'ai fini. Alors, on en est au point 5-2. Et je réponds à la question, puisque quelqu'un m'avait posé une question à propos des examens concours. Alors, je vais faire une demi-réponse. Je ne sais plus où est la personne. En tout cas, puisque vous aviez entendu la question, connaissez au moins la réponse. En fait, au Japon, ce sont des examens et ce ne sont pas des concours. Ce sont bien des examens. Donc, en fait, il n'y a pas de nombre limité de places. Il n'y a pas de nombre limité de places. Ce sont bien des examens, mais je ferme tout de suite cette parenthèse parce que ça, c'est plutôt le cours après. Voilà pour la réponse qui m'était demandée. Surtout, n'hésitez pas, la question qui m'était posée, n'hésitez pas à demander des réponses. 5-2. J'ai vu un doigt se lever, mais comme je n'ai encore rien dit, je suppose que c'est... Oui. On écoute le monsieur, peut-être. C'est une excellente façon de se concentrer en plus, oui. Des réseaux qu'il y avait. C'est vrai? Si, je l'avais donné. C'était... Non? Ok, très bien. Donc, je fais bien de faire 1, 2, 3. Alors, donc, vous réintroduisez ça quelque part, puisque les autres le savent. C'est-à-dire qu'en fait, quand je répète, effectivement, comme je ne suis pas une machine, je vous l'ai déjà dit, il m'arrive d'oublier certaines choses. Et en fait, la troisième raison qui explique le succès de ces conquêtes Tang jusqu'à la fin du 7e siècle, c'est qu'ils utilisent une très habile combinaison. Donc là, je vais vite, hein, je ne fais pas de discours autour. Une très habile combinaison, en fait, entre trois systèmes de recrutement militaire. C'est ça. Donc le premier système, c'est celui d'une conscription militaire valable pour les paysans, c'est en fait pour les corvéables. Ça rentre dans leurs corvées et autres impôts qu'ils doivent à l'état des Tangs. C'est celui d'accomplir un service militaire. Donc ça, c'est le premier élément de ces trois systèmes qu'ils utilisent. Cet élément-là, c'est la conscription des paysans de l'état des Tangs, n'est valable que pour le 7e siècle. Après, ça ne marche plus. Les Japonais vont faire exactement la même chose au début, mais ça ne va jamais marcher au Japon. On va faire comme les Tangs, donc, mais on ne va jamais réussir, encore moins que les Tangs, à imposer ce système de conscription militaire aux paysans. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de ce triptyque, c'est le fait d'engager une armée régulière. Donc l'état des Tangs a à sa disposition des professionnels de la guerre, donc des gens qui ne font que la guerre, et qui font la guerre au bénéfice des Tangs. C'est-à-dire qu'ils sont exclusivement liés à cette dynastie. Et la troisième chose qu'ils utilisent pendant les premières décennies des conquêtes, c'est les mercenaires. Donc ça, c'est assez classique. Hein. C'est des gens qui sont des professionnels de la guerre, mais qui vendent leurs services, en fait, aux plus offrants, et en l'occurrence aux Tangs, mais qui sont évidemment des gens pas très contrôlables, parce que s'ils ont de meilleures offres, ils vont ailleurs. Et donc c'est bien différent de l'armée permanente dont je viens de parler. Donc la combinaison de ces trois systèmes, conscription militaire pour les paysans, une armée régulière au service des Tang, et enfin donc ces mercenaires qu'on utilise comme ça ponctuellement, notamment sur les frontières, font que donc ça marche, c'est-à-dire qu'on trouve toujours des gens pour faire la guerre au service des Tang, et donc ça explique en grande partie ces conquêtes militaires. Vous faites bien de, c'était important quand même de le savoir. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié en dehors de ça. Je crois que j'ai rien oublié. Donc on y va et je commence au point 5.2. Alors, oh là là, calmez-moi pour au point 1.2. Je vois que vous êtes très attentifs. Remarquez, je ne vais pas vous critiquer pour ça. Donc on y va. Alors jusqu'à présent, en gros, on a parlé du contexte international. Enfin, on a dit un mot, quoi. On n'a pas dit grand-chose, franchement, sur la signe des Tang, mais c'était ça ou rien, donc on prend. Du contexte international dans lequel, nous nous intéressons au Japon. Ce Japon a une longue histoire, vous le savez. On le prend, grosso modo, à partir de l'an 600. Donc je vais vous raconter des choses qui précèdent l'an 600. Mais disons que tout le cours, c'est de considérer ce Japon-là au 7e siècle. Donc à partir de l'an 600 environ, et nous sommes donc en l'an 600, comme vous le disait votre chronologie générale, dans la période de Kofun. Donc la période de Kofun est une façon de définir cette période-là. Vous verrez, il y en a bien d'autres. Alors, cette période de Kofun se définit, je vous l'avais dit, par le fait que nous sommes dans une civilisation qui depuis quelques temps, en fait depuis quelques siècles, soit depuis le 3e siècle après Jésus-Christ, construit un type particulier de tombe que l'on appelle des Kofun. Ko, ça veut dire, donc je vous écris le mot, mais je suppose que vous l'avez dans votre plan. Ah, j'ai vu que, oui, j'ai oublié d'effacer ce que mon prédécesseur, vous êtes déjà au 16e et 18e siècle avec ces gens-là. C'est bien, vous avez fait un grand, grand bond en avant. Voilà, nous sautons allègrement les périodes. Ici, donc, nous sommes à Kofun. Ko comme ancien. Voilà, tout simplement, vieux, ancien. Fun comme tertre, c'est-à-dire, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent quand même ce mot, un monticule de terre. Un tertre, c'est un monticule de terre, tout simplement. Vous prenez une pelle qui ne devait pas exister à l'époque, mais peu importe, vous prenez quelque chose pour transporter la terre et vous l'accumulez en un tas, c'est tout. Il se trouve que cette époque fabrique des monuments funéraires, des monuments donc où il y a en l'occurrence des cercueils, d'ailleurs des monuments funéraires qui consistent à accumuler de la terre pour marquer le lieu d'une tombe. C'est tout. Ce sont ces fameux Kofun. Alors, je vais d'abord, toujours je commence par des choses superficielles et ensuite on entre un peu plus dans les détails de ce que sont ces Kofun et de la civilisation qui va avec au 7e siècle. Donc, je le répète, hein, ça existe depuis au moins le 3e siècle, mais là on les prend en cours de route, on est plutôt vers la fin de Kofun dans les années 600. Et y en a encore des Kofun, c'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez un peu cette période du 7e siècle, si vous arriviez en hélicoptère ou en avion, ou en satellite, ou avec je ne sais quel moyen, et que vous parcouriez donc le Japon comme ça, en fait, vous verriez un peu partout dans l'archipel, c'est-à-dire principalement dans toutes les zones qui ont été conquises par ce fameux état ou cour, ou cette cour donc... qu'on appelle la cour du Yamato, mais je vous en parlerai après. En gros, vous auriez des Kofun un peu partout. Donc, vous auriez une espèce de... j'aime bien cette expression de tapis de Kofun, visible de l'espace. Quand vous êtes à côté de ces Kofun, que vous vous retrouvez donc au pied, ça se voit pas forcément, hein, parce que comme par définition, donc, c'est de la terre et que ça suppose que la végétation y croît allègrement, ça ne se voit pas forcément de quand on est à côté, mais en tout cas, ça se voit bien de l'espace. Voilà, donc les Kofun sont un peu partout répartis. Au 7e siècle, là où nous abordons le Japon, en fait, il y en a beaucoup plus qu'au 3e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, ces monuments funéraires que sont les Kofun, je vous les décris dans un instant, ces monuments ont eu tendance à se multiplier avec le temps. Ont eu donc deux tendances, non seulement celle de se multiplier, mais en plus celle de devenir de plus en plus petits. Au début, on construisait des Kofun plutôt au centre du pays, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le département de Nara. Après, ces Kofun se sont multipliés un peu partout et ont eu tendance, donc, parce que n'y a pas de démocratie, hein, évidemment, à l'époque, mais comme semble-t-il, ils étaient destinés à un nombre de plus en plus important de personnes, ils ont eu tendance à être de plus en plus petits. Alors, sur le plan formel, les archéologues distinguent plusieurs types de kofun. Donc, ils prennent leur forme et puis ils font des catégories comme ça. Je vais vous en donner trois, c'est très simple à comprendre. Évidemment, il y en a bien d'autres, il y en a bien d'autres. Et en plus, ces formes ont été plus ou moins importantes selon... Mesdemoiselles, si ça ne vous intéresse pas, vous sortez. Enfin, mesdemoiselles et messieurs. D'accord ? Et je ne m'interromps pas toutes les 5 minutes. Ces kofun ont eu tendance à comment dire, je sais jamais plus ce que je dis, qu'est-ce que j'ai tendance à raconter. Oui, voilà. Donc, en fait, selon les époques, les formes sont différentes. Hein. Moi, je vous parle en bloc. En gros, il y a 3 formes, c'est très simple. Ah oui, peut-être que ça sera encore plus simple si vous regardez le document où je vous présente quelques kofun, d'après un manuel japonais, qui est le document numéro 5. Vous n'êtes pas obligé hein, de venir... Non, d'accord, je vous le dis, c'est... Alors, vous avez au 5.1, au document numéro 5.1, les formes principales qui sont présentées. Vous en avez des ronds, vous avez des kofun qui sont ronds. Bon, c'est-à-dire en fait, on accumule la terre de façon à former un tas rond. Vous en avez qui sont... Donc, vous imaginez plusieurs mètres à chaque fois. Hein, plusieurs mètres. Hein, 1, 2, 3, et puis plusieurs dizaines de mètres pour les plus grands, des kofun. Donc, ce sont vraiment des tas de terre, ce qui ne se voit pas forcément très bien sur... si, ça se voit quand même un peu sur ces schémas. Vous en avez donc des ronds. C'est par exemple celui qui se trouve tout à fait à droite. Vous en avez de forme carrée. Bon, vous en avez vous en avez des ronds, vous en avez des carrés et vous en avez qui sont les plus typiques, soit dit en passant, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'existeraient qu'au Japon et nulle part ailleurs. Vous en avez qui sont à la fois ronds et carrés et c'est donc le premier donc schéma des 5 qui vous sont présentés. Ce premier des deux schémas, vous le retrouvez également au document 5.2 où là on vous présente donc de profil un tertre rond et carré. Les Japonais disent carré à l'avant, zenpo, et rond à l'arrière, koen. Mais en fait, en français, donc eux, ils disent vraiment rond et carré, mais en français, on parle plutôt de kofun en trou de serrure. Voilà, parce qu'on les Japonais, je ne pense pas qu'ils utilisent cette expression, hein, en trou de serrure. C'est nous qui utilisons ça, parce que finalement, ça a à peu près la forme d'un trou de serrure. Voilà. Ça serait la forme la plus typique, la plus originale de ces kofun qui, dans leur principe, donc le tertre, des tertres de ce genre ne sont pas spécifiques au Japon, mais il semblerait que cette forme-là soit tout à fait particulière. Ces kofun ronds et carrés sont souvent assez immenses au Japon. Ils n'ont pas été construits tout le temps. Par exemple, au 7e siècle, on ne les construit plus. C'est une forme de kofun qu'on ne construit plus. On construira... Je termine juste mon exposé, mademoiselle, et ensuite je prends toutes les questions parce qu'il est possible que je réponde en cours de route. On les construira donc, en tout cas de façon certaine, au 5e siècle, au 6e et au 7e, c'est fini. Au 7e, on construit plutôt des kofun ronds ou carrés et beaucoup plus petits. Ces kofun en trou de serrure sont assez grands. Je vous ai présenté donc le plus célèbre et le plus grand d'entre eux, ce qui fait de ce tertre le plus grand tertre du monde. C'est celui qui apparaît dans votre document 5.3. Alors, ce kofun... Donc évidemment, l'allure qu'il a là sur ma photocopie qui est en noir et blanc et qui a été photocopiée d'une photocopie donne quelque chose de pas très clair, mais je crois que vous pouvez quand même deviner. Vous avez donc en quelque sorte 3 parties. Vous avez donc la forme du trou de serrure qui se trouve au centre. Vous imaginez donc que vous êtes au pied. Là, évidemment, la photo est une photo aérienne. Si vous êtes au pied de ce kofun, en fait, il fait quand même plusieurs dizaines de mètres. Donc il est vraiment très grand, très haut, et si vous vous trouvez au pied de ce kofun qui date du 5e siècle, en fait, vous voyez rien d'autre en gros qu'une espèce de colline avec de la végétation dessus. Enfin, moi, je n'y suis pas allée, mais j'ai vu des photos en couleur, donc je vois à peu près à quoi il ressemble. Vous ne voyez pas grand-chose, il faut vraiment le voir de l'espace hein, pour imaginer la forme qu'il a. Tout autour, vous voyez qu'il y a donc un bord beaucoup plus sombre. En fait, c'est un fossé rempli d'eau. Voilà, donc c'est un fossé rempli d'eau. Il se trouve que, tiens, ça me fait penser que je n'ai pas dit aux autres étudiants, mais ce n'est pas très important, il se trouve qu'un certain nombre de ces kofuns, surtout quand ils sont très importants, étaient liés au, étaient liés au système d'irrigation des plaines qui les entouraient. Ce fut le cas probablement de celui-ci, mais évidemment, y a pas, enfin, on ne peut pas apporter une explication strictement technique à la présence de ces fossés remplis d'eau quand il y en a. On peut imaginer que, comme il s'agit de monuments funéraires, et que la mort était sans doute à cette époque donc génératrice de pensées donc sacrées ou autres, on ait peut-être voulu isoler également donc la tombe ainsi par cette douve. Donc il n'y a pas seulement d'explications techniques, mais on a vraiment retrouvé donc, des vestiges qui montrent que les plaines irriguées, donc pour la riziculture de l'époque, étaient liées structurellement à ces kofuns. Donc ça, c'était le deuxième cercle. Et le troisième cercle concentrique, vous avez, je dirais, encore une partie végétation, donc encore de la terre, et qui marque donc la limite de ce monument. Le monument le plus grand du monde. Vous regarderez, donc pour la partie à l'intérieur de la douve, on parle de 486 mètres de longueur. 486 mètres, donc excusez-moi pour la transcription, ça fait un demi-kilomètre, c'est énorme, en fait c'est énorme. Et la longueur totale est évidemment plus importante si l'on comprend la douve et la partie extérieure. Surtout, vous imaginez, je vous ai parlé de tapis de kofun, vous imaginez que dans cette région, en fait, ce kofun-là dont je vous parle, et qui date du 5e siècle, est présent à Sakai, et à Sakai, dans la ville de Sakai, qui se trouve au sud d'Osaka, c'est pas très loin, en une demi-heure, trois quarts d'heure de train, vous y êtes, à Sakai, à partir d'Osaka, à partir du centre, et à Sakai, en fait, il n'y a pas seulement ce kofun, il y en a un tas d'autres tours. Donc Sakai, c'est Osaka, Osaka, c'est en gros, c'est vraiment le cœur du Japon, avec Nara qui se trouve donc au sud. Donc, comme on imagine que ces gigantesques monuments appartenaient à des chefs, et notamment à ceux que l'on appelle aujourd'hui des empereurs, il n'est pas étonnant de voir dans cette région plusieurs kofuns. Évidemment, ils sont tous plus petits que celui-ci, puisque celui-ci est le plus grand du Japon et le plus grand du monde, mais il y en a d'assez imposants quand même, et si vous regardez la même photographie, là, je ne sais plus d'où je l'ai prise, mais je ne sais pas s'il y avait les autres tours, mais si vous trouvez donc la même photographie avec une échelle différente, vous allez retrouver plusieurs kofuns. Je termine juste, monsieur, donc je me dépêche parce que j'ai plein de trucs à faire, mais je ne devrais pas me dépêcher comme ça parce que ça va être un peu saoulant pour vous. Je termine juste l'exposé et ensuite je prends les questions. Alors voilà, bon, donc ça c'était pour une description. Un seul mot encore, donc j'ai parlé du 5e siècle, c'est important de pouvoir situer ce monument, d'autant plus que, vous le voyez, on l'attribue à l'empereur Nintoku. Donc vous le savez, il n'y a pas d'empereur avant bien longtemps au Japon. Au 5e siècle, quand ce kofun a été construit, il n'est pas question de système impérial. Il n'est pas question, il est presque pas question d'État, encore moins de système impérial. En tout cas, c'est un chef qui est l'ancêtre de ceux qui deviendront ensuite empereurs. C'est pour ça qu'on dit rétrospectivement empereur, même si à l'époque ce n'était pas un empereur. On l'appelle Nintoku, en fait, pour tout vous dire, quand on regarde les listes officielles des empereurs, je crois que vous en avez déjà dit un mot, il y a donc une liste officielle, et puis il y en a d'autres plus ou moins officielles et avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, on trouve toujours des dates donc associées à ce fameux empereur Nintoku. Je ne sais plus si c'est 3e ou 2e, 4e siècle, on trouve des dates qui sont déjà en décalage avec celle-ci, mais qui sont parfaitement fictives, parce qu'autant vous dire qu'avant la fin du 4e siècle, et vous comprendrez un peu plus tard dans le cours pourquoi, on ne sait rien de l'organisation en fait politique et sociale de ce centre du Japon et du Japon en général. En fait, on ne sait pas grand-chose. Autrement dit, attribuer ça à l'empereur Nintoku est une pure légende. Il n'y avait pas d'empereur et Nintoku a sans doute jamais existé puisqu'on ne sait pas en fait qui gouvernait le Japon au 4e et au 5e siècle. Les dates ne sont pas sûres et les personnages même dont on a des traces dans les documents ne sont... on n'est même pas sûr qu'ils aient existé. Voilà, histoire de vous dire que quand je donne pour les gens le kofun présumé de l'empereur Nintoku, il vous faut faire attention et je ne veux pas retrouver dans un devoir, par exemple, la tombe de l'empereur Nintoku, ça serait une contre-vérité historique. Alors, qu'est-ce que je vais dire donc sur ces kofuns? Je crois que j'ai dit l'essentiel. Il me reste encore une chose à dire, mais je dirai peut-être après les questions de... Voilà, monsieur.
Mais donc, vous avez dit que c'était le plus grand du monde, mais ça veut dire
le plus grand tertre du monde, hein, parce que sinon il y a les pyramides et il y a d'autres choses.
Oui, d'accord. Oui. Mais je veux dire, ça suppose donc qu'il y en avait aussi peut-être en Asie aussi.
Oui, bien sûr, oui. Il y en a en Corée. Mais le problème, c'est que pour la Corée, je ne peux pas vous en parler dans les détails. J'en ai pas vu. J'ai rien lu là-dessus. Bien sûr, mais le principe est vieux comme le monde. Hein. Le principe
on
est vieux
on
comme
sait
le
pas
monde.
D'où ça, enfin, ça vient du Japon, ça vient de la Corée
Alors là. Non, alors, un, je ne peux pas vous répondre. Et deux, je crois qu'on ne peut pas vous répondre. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait vraiment partie des choses dont débattent les archéologues. Sans jamais donner de réponse certaine. D'où ça vient ? Bon, donc les Japonais sont déjà très contents d'avoir, de pouvoir affirmer que les kofu dans trou de serrure sont typiques du Japon. À partir de là, d'autres pensent que le principe peut venir du continent. C'est pas forcément une question très très importante, hein, parce qu'après on tombe tout de suite. Enfin, je me permets de le dire quand même parce que bon, ça c'est une question d'archéologue. D'où ça vient ? C'est de base comme question. Mais il faut pas trop s'attacher à ce genre de choses. Ça concerne les Japonais ou ça concerne les Coréens et les Chinois. Quand on pose la question, il faut faire attention à pas rentrer dans leur querelle idéologique. On était les premiers, on est les plus forts. Voilà, donc deux réponses. Un, j'en sais rien. Deux, on n'en sait rien. Et trois, attention, quand vous posez des questions, parfois elles sont idéologiquement un peu lourdes. C'est à la fois très important de savoir et à la fois pas trop important d'insister sur la question parce que ça ne nous regarde pas. Les enjeux étant très souvent, et c'est pas seulement bien sûr pour le Japon, en archéologie, tout est un peu biaisé par des considérations politiques et idéologiques. Et voilà, on nage dans des eaux troubles souvent. Voilà. Mais cela dit, c'est vrai que je ne sais pas répondre. Et bon. Ah, moi, je veux dire, je ne vois pas le poisson. Hein. Je ne vois pas le poisson. Je ne sais pas répondre. Mais moi, par exemple, ça ne m'intéresserait pas une telle question. Mademoiselle.
En fait, je voulais savoir, comme ils sont immenses.
Pas tous, hein. Pas tous, hein.
Mais il y en a qui sont immenses. Donc, c'est toujours pour une personne ou c'est une.
Alors, oui. Non, mais voilà, je me disais bien, j'avais oublié de vous dire quelque chose, bien sûr, à chaque fois. Non, mais déjà, je vais aller moins vite. Tant pis. C'est-à-dire que je vous donnerai presque pas de pause et eux, je leur en donnais au moins par 10 minutes ou un quart d'heure. J'ai oublié de vous dire une chose essentielle. Bon, alors, soit cela ne serait pas l'empereur Nintoku. Pas d'empereur à cette époque, sans doute pas de personne qui portait ce nom. Oui, j'ai oublié de vous dire la chose essentielle. Alors, comme vous le voyez dans le schéma numéro 5.2, ces kofun, quand ils sont gigantesques, renferment des tombes. Des cercueils, ce sont des tombes, renferment des cercueils en bois dans lesquels les personnages sont allongés. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ces kofun au 19e siècle et au 20e siècle après, lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ces kofun, comme on partait de l'idée que ces monuments funéraires appartenaient fortement à des chefs, et que comme on pensait que les chefs de cette époque de Kofun ne pouvaient être que les anciens, enfin que les ancêtres des empereurs, on n'a pas vraiment voulu y toucher à ces grands Kofun, et notamment à celui-ci. Autrement dit, jusqu'en 1872, alors qu'on connaissait ce Kofun et ceux de la région, on les voyait. En fait, on ne voulait pas faire des enquêtes sur ces monuments funéraires parce que on pensait que c'était un sacrilège. Alors du coup, pendant très longtemps, ce kofun-là, attribué à Nintoku, n'a pas été fouillé. Or, en 1872, donc je vous ai mis la date au tableau, en 1872, un glissement de terrain providentiel a permis de révéler une partie de ce qu'il y avait dedans. Oui, dans celui-ci, il y a bien un cercueil et dans d'autres aussi. Mais il y a beaucoup de kofun. Alors après, il faudrait voir la proportion. Je ne suis pas spécialiste, hein, si c'est les 3/4 ou les 90%. Mais en tout cas, il y a une grande quantité de kofun qui ne sont pas investis. Et même aujourd'hui encore, on n'y met pas les pieds, enfin c'est-à-dire qu'on n'y fait pas de fouilles, on observe à l'extérieur, on voit ce qui se passe, mais on ne pénètre pas à l'intérieur, voilà, parce qu'on les considère comme des objets sacrés, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure au monsieur, tout ce qui est archéologie est toujours doublé de préoccupations donc idéologiques et politiques, et à partir du moment où vous avez des tombes qui sont, consacrées, en tout cas supposées être consacrées à des empereurs, on ne pénètre pas comme c'est ça dans une tombe aussi facilement. Oui, mais les pyramides n'ont pas été fouillées par des Égyptiens. Et puis les pyramides, c'est vraiment l'exemple type, enfin bon, vraiment parenthèse, d'une irruption étrangère dans un patrimoine local. Et c'est vraiment l'exemple type de la colonisation par excellence, quoi, où vous allez jusqu'à fouiller, récupérer les œuvres d'art des uns et des autres. Mais ça, bon, c'est un peu différent parce que l'Égypte, c'est c'est pas interne, enfin là c'est un rapport de force coloniale. Là ce sont des Japonais qui ne veulent pas fouiller leur propre tombe parce que ça touche à la personne et à l'institution impériale considérée comme sacrée. Alors, voilà. En revanche, je peux vous dire qu'il y a certains kofun dans lesquels on pénètre facilement. Ceux qui, justement, qui ont été construits plutôt sur le tard, qui sont beaucoup plus petits, qui ne sont pas attribués à des empereurs. On suppose, là encore, que ce sont des monuments qui étaient réservés à des chefs, c'est-à-dire à des gens qui avaient... Chef, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à des gens qui avaient assez de pouvoir, en fait, pour demander à leur congénère de fabriquer ce genre de monument. Et, par exemple, donc, il y a... Mais il y en a partout, des kofun, donc c'est un exemple parmi mille autres. Il y a donc dans la préfecture de Wakayama, qui se trouve qui se trouve donc bien au sud. Ah, je vous ai pas encore parlé de ma fameuse péninsule de Kii, d'ailleurs aux autres étudiants non plus. Je vous la donne tout de suite, ça sera beaucoup plus simple parce que dès qu'on parle... Non, c'est peut-être un peu bizarre, attendez, mon Japon, mes dessins sauvages sont toujours un peu bizarres. Là, littéralement, comment dire, caricatural, mais peu importe, ça me permet, comme ça m'évitera à chaque fois de vous dire, de vous dire ceci, que donc le Japon, en fait, le département de Nara, en fait, on va le situer à peu près là, aujourd'hui, et il est, donc... au sud, donc voisin d'une péninsule qui s'appelle la péninsule de Kii, qui a donné le nom à une province administrative que vous voyez donc sur votre document, juste au milieu du Japon, juste donc au milieu du Japon géographique que vous connaissez. La carte date du 19e siècle, mais on n'est pas très loin du 7e parce que ce découpage en 60 et quelques provinces en fait existe dès le 7e, 8e siècle. Regardez, juste au milieu, vous avez donc... juste au milieu du Japon, plutôt vers le sud, une péninsule qui s'appelle... là, c'est une province qui s'appelle le Kii, mais à l'origine, c'est le nom aussi d'une péninsule. Et donc, Wakayama, ça se trouve dans la péninsule de Kii, donc vous voyez où c'est. D'accord ? Un peu plus au nord, regardez, la péninsule de... Non, ne regardez pas, c'est pas grave. Non, parce que je ne sais plus si c'est Sakai, si c'est dans le Kawachi... Ou Izumi. Je ne sais plus si Sakai, donc l'actuelle ville de Sakai est dans la province de Kawachi ou Izumi, je ne sais plus, ce n'est pas très important. En tout cas, donc on est à Kii, on est à Wakayama, et je vous dis juste un mot sur d'autres tombes qui peuvent exister pour vous montrer en fait la diversité de leur évolution et de leur forme. Donc vous imaginez être dans la ville de Wakayama, je ne sais pas si certains y sont allés, moi j'y suis allée il y a bien longtemps, donc c'est un vieux souvenir que je vais vous raconter, que je raconte chaque année, mais qui m'a tellement marqué qu'en fait je ne peux jamais m'empêcher de passer, donc... de passer à côté. Donc voilà, un jour j'étais à Wakayama, donc ça c'est des digressions pédagogiques, je vous le dis. J'étais à Wakayama et comme dans un tas d'autres localités, vous avez, je dirais, une exploitation de la culture locale. C'est-à-dire que les Japonais sont des gens très attachés à leur culture nationale, ça tout le monde le sait, mais ce qui est peut-être plus exotique pour nous autres Français, et là je parle des Français et pas seulement des Occidentaux en général, qui sommes passés par la Révolution française et son énorme rouleau compresseur qui a fait que tout le monde a abandonné les langues dites régionales, breton, basque, etc., pour se mettre au français, pour étudier donc la culture en fait parisienne, enfin, et ça existe encore aujourd'hui. Quel homme politique, à part certains que je ne citerai pas, font encore carrière avec un accent. Donc nous, on n'est pas trop habitués à entretenir comme ça nos cultures régionales, et puis dès qu'on le fait, ça a des tonalités légèrement musclées, sur lesquelles je ne m'étends pas aussi. Au Japon, les Japonais, donc il n'y a pas eu de la centralisation, ils n'ont pas cette histoire de centralisation, de révolution française, et de rouleau compresseur comme ça national, où on élimine toutes les cultures. Du coup, à chaque fois que vous allez quelque part au Japon, et donc là, je vous encourage très fortement à entendre ce que je vous dis pour, maximaliser votre plaisir de touriste, dès que vous vous trouvez quelque part au Japon, vous avez toujours un tas de petits centres où on va vous parler de la culture locale. Donc, il n'y a pas un seul lieu au Japon, je crois qu'il n'y a pas une seule municipalité au Japon, donc qu'elle soit urbaine, shichō ou son, donc urbaine, rurale ou villageoise, qui ne vous présentera pas son kofun, enfin, c'est kofun, puisqu'ils étaient plusieurs locaux. Donc ça, c'est vraiment, vous trouvez ça partout. Donc Wakayama a fait la même chose, sauf que Wakayama a la chance, la ville de Wakayama, de disposer d'une sorte de site, toute une montagne, ou plutôt des collines, c'est pas très haut, avec que des kofun très anciens. Donc c'est assez impressionnant. Donc vous allez sur ce site, vous entrez donc par une porte, vous vous retrouvez en pleine nature. Donc c'est un site qui a été... qui est aujourd'hui touristique, mais à l'origine, ce sont des vrais kofun. Ce sont vraiment des vrais kofun. Vous retrouvez, en fait, en pleine... en pleine nature. Vous êtes quand même dans un paysage de forêt, donc vous avez des arbres ici et là. Et ce que vous voyez, en fait, à première vue, c'est juste de la végétation. Donc c'est toujours le principe, ce sont des tertres. Donc c'est de la terre, et sur la terre pousse tout naturellement, sauf qu'on met des désherbants, donc de la végétation. Et donc, ben voilà, vous avez des chemins, vous allez ici et là, vous vous promenez, et vous voyez donc de part et d'autre de votre chemin des espèces de petits tas avec de la végétation. Si vous n'êtes pas attentif, mais on vous a bien prévenu que vous entrez dans un site archéologique, donc vous le savez dès le début, hein, mais vraiment quelqu'un qui arriverait sans rien savoir et n'y verrait que du feu. Dès que vous commencez à vous approcher de ces espèces de tas avec de la végétation dessus, en fait, vous vous apercevez que vous pouvez carrément rentrer dans ces... dans ces tas, dans ces tertres, en fait, vous pouvez rentrer puisque les portes sont latérales. Donc, en fait, quand j'y suis allée, j'ai pas pu m'empêcher de pénétrer dans un kofun. Donc, c'est un kofun d'un autre genre que celui des serrures, mais c'est quand même un kofun. Donc, c'est un vieux tertre. Donc, vous entrez, si vous avez pas trop peur, de rentrer dans un monument funéraire quand même. Vous ne voyez pas de squelette. Hein. Je ne sais pas où étaient les cercueils, où étaient enterrés les morts. S'ils étaient vraiment enterrés, je ne sais même pas, parce qu'à l'époque, quand j'y suis allée, ça fait bien longtemps que je l'ai dit, j'étais pas si, si au courant de cette situation de Kofun. Du coup, je me suis pas trop posé de questions, je suis rentrée et je me suis pas posé la question de savoir où avaient été enterrés les corps. Je ne sais pas, peut-être étaient-ils à l'extérieur. En tout cas, c'est certain, c'était une tombe. Vous entrez, vous retrouvez dans une espèce de petite chambre, dont les murs sont constitués de pierres plates qui sont les unes sur les autres et puis qui font un peu tapisserie en quelque sorte. Donc on peut imaginer ici que c'est une volonté de décorer une chambre funéraire au sens propre du terme. Et pour vous donner un peu une idée de la taille d'un kofun, sans doute de la fin de l'époque de kofun, là où on les construisait en plus grand nombre et en plus petit, bah vous imaginez que j'étais là debout, avec les bras étendus, parce que j'ai fait quand même quelques expériences, j'avais pas de maître, mais j'ai quand même voulu rapporter en souvenir la taille de ce kofun. Donc en gros, les bras étendus de chaque côté, ça donnait la longueur de la chambre, et ça devait faire à peu près dans les 1m70 à 1m80, ma tête touchait pas tout à fait le plafond, mais en gros c'était ça, voilà un kofun. Donc comme il en existait, donc ils étaient plus ou moins grands, hein. je suis vite ressortie de celui-ci, parce que bon, c'est quand même par respect, et puis bon, je me rappelle, j'avais des gens, mais j'ai pris sur moi quand même, hein, par respect, et puis bon, pas par superstition, je ne le suis pas trop, enfin pas plus que n'importe qui, mais voilà, c'est pas, c'est comme si, enfin, c'est, vous êtes libre, hein, il n'y a pas d'interdiction, mais bon, d'un autre côté... vous faites attention, quoi, là où vous allez. Et voilà, donc à quoi ressemble un kofun, et puis vous en ressortez, puis vous en voyez plein d'autres. Donc il y en a sans doute quelques centaines sur ce site de Wakayama. Voilà à quoi ressemble donc un kofun, et ce à quoi étaient confrontés, en fait, nos hommes de l'époque de kofun. Voilà, et il y en avait partout dans le Japon, hein, il y en a partout dans le Japon. Alors, évidemment, maintenant, donc on regarde toujours avec plaisir quand on va dans des petits centres, des petits musées, ici et là au Japon. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, mais... Bon, c'est assez répétitif quand même, hein, c'est assez répétitif. Voilà, alors, je vous ai décrit les kofuns, ça c'était la partie description. Maintenant, on va essayer de présenter un peu cette société qui construit ces monuments funéraires. Déjà, la première chose que nous disent ces monuments funéraires, je l'ai déjà donc souligné, mais là j'insiste parce que c'est un peu le point de départ de mon discours sur la société de Kofun. Donc je vous rappelle, on est au 7e siècle. Hein. Je me disais bien que j'oubliais des choses, je vais aller trop vite. À un moment, ils disparaissent. Oui, ils disparaissent. Donc, je vous parle quand même de leur disparition et ensuite, je vous parle de cette société. Alors, ils disparaissent en gros à la fin du 7e siècle, nos kofun, là, dont je vous parle. Les grands et les petits, les ronds et les carrés disparaissent à la fin du 7e siècle. On donne deux raisons, généralement, pour expliquer la disparition assez progressive, hein, des kofun. Donc, je vous le répète, qui ont été construits au 3e, qui disparaissent plutôt vers le 7e, en ce sens qu'on ne les construit plus. Mais bien sûr, ils sont encore là. On les a pas... Certains ont sans doute été rasés, d'autres comblés, j'en sais rien. Mais ils sont encore là. Et la preuve, c'est qu'à Sakai et dans bien d'autres localités, vous pouvez encore en trouver. Hein. Ils sont là, mais on ne les construit plus. Et puis, il est possible qu'avec les années qui passent, en fait, les Japonais successifs du Moyen-Âge, de l'époque moderne, et jusqu'au moment où on a commencé un peu à s'intéresser à eux, vers l'époque de Meiji, il est possible qu'en fait, ils ne les aient plus vus, vu que ce n'est que de la terre avec de la végétation dessus. Hein. Mais ils sont toujours là, bien sûr. Mais cela dit, on ne les construit plus à partir de la fin du 7e. Alors là encore, c'est c'est pas querelle, hein, c'est-à-dire que c'est pas péjoratif, mais là encore, c'est des questions qui sont en discussion entre les archéologues. Est-ce qu'ils disparaissent à la fin du 7e, au début du 8e? Est-ce qu'on en trouve après? Là, vous trouvez autant d'avis qu'il y a d'archéologues, mais on va prendre l'avis général. Fin 7e, il n'y en a plus. Si bien que vous faites quand même attention au tableau chronologique qu'on avait commenté lors du premier cours, où je vous dis que l'époque de Kofun va de je ne sais plus quelle année jusqu'en 710. Je vous l'ai dit parce que j'ai pris l'époque de Kofun un peu au terme générique, au sens générique du terme, c'est-à-dire comme époque, en gros, qui va jusqu'à l'époque de Nara, où là on entre dans une autre société japonaise. Au sens strict du terme, l'époque de Kofun s'arrête là où on ne construit plus de Kofun, début 17e. Au sens sociologique et large du terme, on peut faire remonter l'époque, enfin on peut donc donner comme limite à l'époque de Kofun, là où on entre dans une autre société, celle de Nara. D'accord ? C'est clair ce que je raconte ? Je vais pas trop vite, ça va ? Oui. Pourquoi 710 ? Parce que c'est là qu'on construit la capitale de Nara, comme vous le verrez plus tard. Voilà, donc on entre dans une... On construit une ville fixe, on entre dans une autre civilisation, et donc on entre dans une autre période, un autre Jidai pour les historiens japonais. Alors, oui, alors ils disparaissent, donc vers la fin du 7e. Deux raisons sont données. La première, c'est que... plus ou moins bonne, hein, mais c'est ce que vous allez retrouver dans les manuels ici et là, c'est qu'en 646, un empereur, on va aller vite, hein, vous savez qu'il n'y a pas d'empereur avant bien longtemps, et il n'y en a pas en 646, mais ceux que l'on considère comme étant les ancêtres des empereurs que nous connaissons. En 646, donc, un empereur, au sens rétrospectif du terme, aurait édité un texte, aurait promulgué un texte qui interdisait, donc aurait, hein, avec tout ce que ça suppose d'incertitude, qui interdisait en fait la construction de grands Kofun. De grands Kofun. Pas de tous les Kofun, mais de grands Kofun. Et cette interdiction écrite aurait suffi, disent certains, à stopper en fait la construction de ces monuments funéraires. Bon, donc ça c'est le genre de, voilà, c'est le genre de raison, c'est ce que j'appelle faire un cours consensuel et sans trop se poser de questions, on trouve ça partout, pourquoi pas. Si vous creusez un tout petit peu quand même l'argument, il tient pas trop, mais vous le retenez quand même, hein, parce que encore une fois c'est pas ma période, donc là j'impose pas de façon de voir, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que la rédaction d'un texte, venant même d'un personnage aussi important que ce qu'étaient donc les empereurs entre guillemets à cette époque, suffit à stopper la construction de tels monuments funéraires, sachant que tout ce qui a un rapport avec la mort donc participe toujours à quelque chose de très profond chez les individus, et que c'est pas un texte en fait qui suffit à bouleverser donc des coutumes funéraires qui existaient depuis au moins le 3e siècle. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un seul texte de 646 explique la disparition de ces monuments funéraires? À mon avis, non. Et juste un exemple qui va vous paraître un peu bizarre, mais voyez un peu toutes les lois qu'on est en train de pondre depuis 10 ou 20 ans en France et qui ne marchent pas. C'est pas parce que vous écrivez quelque chose et que vous le rendez obligatoire que ça marche. Et ça marche d'autant moins que ça marche d'autant moins quand vous vous adressez en fait à des choses aussi fondamentales que tout ce qui touche à la naissance, à la maternité, à la mort, à la maladie. Tout ça, c'est des choses qu'on ne change pas avec un seul texte, d'accord ? Mais vous trouverez partout 646. Donc je vous le dis comme ça, avec toutes les réserves que j'y mets. Et puis la deuxième raison qu'on explique, la deuxième raison qu'on avance pour expliquer donc la disparition de ces Kofun, c'est que à partir d'un moment, soit vers la fin du 7e siècle, disons la deuxième moitié du 7e siècle, les gens, donc les chefs, entre guillemets, qui se faisaient construire des Kofun, auraient préféré se faire construire à la place des temples bouddhiques, puisque vous le verrez, en fait, le bouddhisme a été introduit officiellement au Japon au 6e siècle. Notez pas cette date, hein. C'est répandu, c'est vrai, dans les classes dirigeantes du Japon au 7e siècle, et que le bouddhisme, c'est pas seulement une façon de concevoir la vie, c'est aussi une manière de gérer la mort, et que donc le bouddhisme aurait apporté ses temples, et cela se serait substitué au Kofun. Bon, là encore, je suis pas spécialiste de la période, méthode. Moi, ce que je sais, c'est que le bouddhisme n'est quand même pas si présent que ça dans les mentalités profondément dans cette fin de 7e siècle. Mais j'ai rien à dire, c'est pas ma période, donc je vous dis ce qu'on raconte partout. Le bouddhisme expliquerait donc la disparition de ces cultures. Il y a sans doute d'autres raisons, mais là, c'est tout. Il faut lire des archéologues pour comprendre les choses en profondeur. Je vous ai... Ah non, et ben voilà. Non, je ne vous ai pas tout dit sur le Kofun. Il me reste une chose à vous dire. Je suis désolée, j'ai vraiment l'impression de... Mais ça, il y aura des séances comme ça où j'aurai l'impression de vous déverser un stock d'informations. Mais bon. Alors, oui, c'est un détail, mais je vous en parle quand même. D'ailleurs, ça va me prendre au moins 5 minutes. C'est un détail, mais je vous en parle quand même parce que d'abord, j'ai pris la peine et il va vite rentrer à la maison parce que je l'avais laissé dans mon casier là pendant une semaine. J'ai trop peur de le casser. Il faut absolument que je vous parle. C'est un détail, mais vous prenez note quand même. Hein, ça fait partie du cours. Mais c'est moins important. Mais comme je fais une introduction, je vous parle de tout ce dont on parle. Quand on parle de Kofun, on parle toujours des Haniwa. Donc ces petites choses, hein, enfin qui sont grosses, hein, soit dit en passant, ça c'est un bébé Haniwa, c'est comme si j'avais une tour Eiffel, c'est comme si je vous apportais un porte-clés en tour Eiffel, hein, c'est du même niveau, c'est rien d'autre que ça, hein, ça n'a aucune valeur historique, absolument aucune, et en plus c'est tout petit, donc c'est un porte-clés en tour Eiffel, à la japonaise. Donc un Haniwa, juste un mot, vous retournez sur votre plan, donc sur les plans où je présentais des Kofun, notamment 5-2. D'abord, je vous dis ce que ça veut dire. Un haniwa, c'est un tube. Donc, ça veut dire en japonais un tube d'argile, ou plutôt un cylindre. Tube, ça fait. On a l'impression que c'est un objet d'optique, mais en fait, il pouvait être assez grand. C'est un cylindre ou un tube d'argile, tout simplement. L'argile est cuite, hein, bien sûr. Un tube d'argile, voilà ce que signifie donc le terme. Si vous regardez le document numéro 5.2, vous en voyez des haniwa qui sont plantés tout autour donc de ce Kofun à la base. Vous en voyez également un ou deux là au sommet. En fait, ces haniwa, c'est ni plus ni moins que des cylindres en terre cuite qui pouvaient donc aller jusqu'à 2 mètres. Donc, c'est des monuments assez imposants quand même, hein, qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres, qui donc sont assez grands pour. Enfin, si vous décrivez. Si vous regardez ce que je suis en train de faire, donc qui sont assez grands pour que vous pouvez comme ça prendre à bras le corps quasiment, donc assez large pour être embrassé comme ça, et qui en fait sont plantés dans les grands kofun, notamment celui de Nintoku, sont plantés comme ça à la base, au sommet ou sur les pentes de ces gigantesques kofun. Voilà. Alors, avant de vous donner les raisons pour lesquelles on a planté de tels monuments, je vais vous expliquer ce petit cheval. Et je vais quand même vous dire que les Haniwa ne sont pas exclusifs au Kofun. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé des sites où il n'y avait pas du tout de Kofun, mais où il y avait des groupes de Haniwa comme ça, ici et là au Japon. Donc, ils ne sont pas forcément présents là où il y a un Kofun, mais les grands Kofun comportent tous des... tous ou presque tous des Haniwa, et par milliers en plus. Donc, ça fait partie intégrante de ces monuments funéraires. Alors, ce petit cheval, en fait, il fait partie, c'est un élément d'un haniwa. La plupart des haniwa sont de simples, entre guillemets, parce qu'ils sont assez décorés quand même. Il y a des petits dessins géométriques que l'on a fait dessus. Sont de simples tubes, donc plantés dans le sol autour de ces kofun. Ça, c'est vraiment la plupart des haniwa, mais certains, en fait, sont surmontés d'un décor qui, en fait, est assez révélateur de la civilisation matérielle du Japon de cette époque. Ou alors, plus précisément, parce que je crois qu'il faut être plus précis, de la civilisation matérielle de cette époque telle qu'on la promouvait, c'est-à-dire telle qu'on la rêvait. Hein. C'est comme nous, personne ne possède, les derniers, je dis n'importe quoi, mais d'ailleurs, je ne sais même pas ce qui relève du dernier cri, mais imaginez une machine qui serait du dernier cri, personne n'est... les gens ne sont pas tous censés les posséder, et pourtant ça peut être symbole d'initiation. Donc, encore une fois, c'est dessins, ou plutôt ces représentations de choses matérielles qui concernent la civilisation de l'époque Kofun. Ça ne veut pas dire que partout au Japon il y avait des chevaux, ça ne veut pas dire que partout au Japon on utilisait des bateaux, etc. Ça veut dire qu'on considérait à cette époque que c'était assez emblématique de la civilisation pour les représenter. Donc, vous avez des chevaux comme celui-ci. Je vous rappelle que le cheval est il n'est pas introduit, mais il est au moins utilisé et diffusé à l'époque de Kofun. Avant, ça n'existe pas. Donc, avant le IIIe siècle, il n'y a pas de cheval, ou il n'y a pas tellement de chevaux dans l'archipel. Voilà, donc c'est un élément nouveau. On en trouve des comme ça. Celui-ci, en vrai, est beaucoup plus grand, puisque je crois qu'il y en a au musée Guimet, je ne suis toujours pas allée vérifier, mais moi je l'ai vu, enfin il y en a plusieurs, hein, des représentations de chevaux, elles ne sont pas toutes identiques, mais en gros c'est le même genre. Moi je l'ai vu au musée national de Tokyo, et lorsque vous allez dans la salle des Kofun, vous trouvez donc un certain nombre de figures de ce genre, et le Kofun que j'ai vu d'après mes souvenirs, hein, parce que ça fait encore longtemps, il était peut-être grand comme ça quand même, hein, donc là c'est vraiment un Kofun, une représentation miniature, et je vous rappelle, donc au-dessus d'un tube d'argile. Vous avez des bateaux qui sont représentés, vous avez des soldats. Alors je me suis acheté aussi le petit soldat quelques années plus tard, il y a un peu plus tard que 2 ans, mais il n'est pas très beau, il est grossier. Cette reproduction-là est vraiment très jolie, je trouve, mais mon petit soldat n'est pas terrible. On voit qu'il a une armure, ce qui est bien, il a une épée, ce qui est bien, donc ça donne un peu une idée de ce qu'était un soldat à l'époque, puisqu'on est, vous le verrez, dans une société assez conflictuelle. Mais bon, il n'est pas terrible. Des bateaux, des maisons, des chevaux, tout ce qui peut représenter en fait une civilisation matérielle ancienne. Voilà. Là, je crois que j'ai vraiment fini avec mes Haniwa. Je crois que j'ai vraiment fini. Ah oui, fini. Lorsque je vous aurais dit donc les trois raisons qui expliqueraient la présence de ces tubes de terre tout autour. Des Kofun. Première raison, toute bête. Vraiment toute bête. Imaginez à partir de la présence de ces éléments décoratifs, ça serait pour décorer. Les Haniwa, donc, sont présents autour des Kofun pour décorer les Kofun. Pourquoi pas ? Évidemment, c'est assez élémentaire. Je vous rappelle que nous sommes donc à une époque là, à Kofun, où l'on n'écrit pas les choses. C'est-à-dire qu'en fait, les archéologues, quand ils se retrouvent devant des Kofun ou devant des objets de ce genre, et il y en a bien d'autres encore, ils n'ont pas d'étiquette qui explique. Donc, en fait, ils passent leur temps à émettre des hypothèses pour expliquer la présence, la forme, le nombre, etc., de tel ou tel élément archéologique. Donc, en archéologie, enfin, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs hier, c'est une discipline qui, moi, me semble assez... bizarre en tant qu'historienne, ou surtout quand on est au Japon, on a un monstre, on croule sous les documents écrits, dont on ne sait pas trop bien quoi faire d'ailleurs, et puis qui sont en plus incomplets, mais imaginez-vous, enfin moi je m'imagine mal, archéologue, avec des milliers, des centaines de milliers de choses qui ne disent rien sur elles. Et vous passez votre temps à faire des hypothèses. Première hypothèse, c'est pour décorer. Pourquoi pas ? Oui ?
C'est-à-dire
qu'ils sont quand même enfouis dans le sol, pour tenir, ils ne sont pas à la surface. Ils sont dans différents endroits, ils peuvent être à la base, de ces 10, 20 ou 30 mètres à l'extérieur, ils peuvent être sur les côtés, ils peuvent être au sommet également. Ah non, ils ne sont pas à l'intérieur. Non, à l'intérieur, il y a un mobilier funéraire, mais qui est différent. Par exemple, les cercueils dont je vous ai parlé, qui sont en bois, qui contiennent les corps, peuvent contenir des épées en bronze, des miroirs en bronze, des bijoux. Mais les Haniwa sont à l'extérieur. C'est pour ça que je vous ai montré le dessin. C'est bizarre, je crois avoir été clair. Moi, c'est pas grave. Non, là, vous le voyez de profil, mais ce n'est pas une coupe, ce n'est pas une coupe qui est représentée. Vous le voyez simplement de profil, ce Kofun en trou de serrure. Ah, si, c'est ça. Alors, deuxième hypothèse, un peu plus sophistiquée pour expliquer la présence de ces Haniwa. Et si j'insiste en fait sur les différences entre ces hypothèses, c'est pour vous dire que, une fois que vous posez la question, mais pourquoi donc ces Haniwa, vous avez un tas de choses possibles à vous mettre sous la dent. Plein de gens pour vous contredire et personne pour vous enfoncer totalement, puisqu'il n'y a jamais de preuve et que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, bien sûr, si vous voulez, mais c'est assez amusant de voir combien les hypothèses peuvent être différentes. La seconde, en fait, c'est l'idée que ces Haniwa auraient eu pour fonction, là, sur le plan très technique, de retenir la terre en cas d'éboulement, de pluie torrentielle, etc. Puisqu'après tout, ces tertres sont des monuments en terre, donc ce n'est que de la terre, et que la terre immeuble, c'est-à-dire bouge, comme vous le savez, ils auraient eu pour fonction, dans ces grands kofun notamment, de retenir la terre, d'éviter les glissements de terrain, en quelque sorte. Ce qui n'explique pas la présence de ce petit cheval ou d'autres éléments décoratifs. Donc ces hypothèses que je vous présente sont différentes, mais peuvent être complémentaires, bien sûr, bien sûr. Donc, éviter les glissements de terrain, là, une raison toute technique. Pourquoi pas? Encore une fois, j'ai rien à dire. Je vous rapporte ce qui se dit sur cette époque. Par contre, la troisième hypothèse, là, me concerne un peu plus en tant qu'historien parce que c'est un rapport avec un texte écrit dont vous devez absolument connaître le nom. Donc, c'est la première fois que je vous en parle. Et vous allez voir, pour tout ce cours du Japon antique, je vous en parlerai assez souvent. C'est un des premiers textes que l'on ait sur l'histoire du Japon. Ce n'est pas tout à fait le premier que l'on connaisse, mais c'est vraiment un des premiers que... c'est un des premiers. Donc, ce n'est pas le premier, mais c'est un des premiers. Il a été donc achevé, cet ouvrage, en l'an 720. Voilà donc des dates que vous devez absolument... une date que vous devez absolument reconnaître. Il s'appelle donc Nihon Shoki, en japonais. Et ça signifie donc Nihon, c'est Japon. Et c'est d'ailleurs le premier texte japonais que l'on connaisse. Il est écrit en chinois, mais c'est un texte japonais, parce que écrit par des Japonais au Japon. Donc il est écrit en chinois, mais c'est un texte japonais quand même, en ce sens qu'il est écrit par des Japonais. Donc Nihon, c'est Japon, c'est la première fois qu'on utilise... Non, c'est pas la première fois qu'on l'utilise. C'est le premier texte où le terme de Nihon, Japon, apparaît. Voilà. Et Shoki, chronique. Chronique du Japon, chronique au pluriel. Et d'ailleurs, je vous parlerai plus précisément de ce Nihon Shoki dans une ou deux séances. Et vous verrez que la structure de cet ouvrage d'histoire, donc ça raconte l'histoire du Japon, la structure est assez complexe pour qu'on parle de chronique au pluriel et non pas simplement au singulier. Donc Nihon Shoki, les chroniques du Japon, nous parlent de ces Raniwa. Et nous disent en 720 que ces Raniwa qui donc décorent ou sont autour des kofun, en fait, seraient des vestiges d'anciens sacrifices humains. Voilà ce que nous disent les auteurs du Nihon Shoki. Donc je répète, ces Raniwa seraient des vestiges d'anciens sacrifices humains. Donc là, ce n'est plus les archéologues qui parlent, hein, ni les historiens. Ce sont des gens de l'époque, quasiment des kofun, hein, c'est quelques décennies après la construction des derniers kofun, qui expliquent la présence de ces objets, en fait, tout autour des kofun. Donc on est très loin de la thèse de la décoration, très loin de celle du glissement de terrain à éviter. On est en pleine... comment dire? En pleine... oui, on est... c'est une explication culturelle. Que dire? Les archéologues sont à peu près unanimes, d'après ce que j'ai compris, pour dire que c'est pas possible, que ça ne peut pas être des vestiges de sacrifices humains, parce qu'on n'aurait jamais retrouvé, dans aucun vestige archéologique du Japon, des traces de sacrifices humains. Voilà, c'est ce que vous disent les archéologues. Et pourtant, le Nihon Shoki, en 720, affirme Mordicus qu'il s'agit d'anciens sacrifices humains. Alors, comment expliquer, cette contre-vérité historique, semble-t-il, puisqu'il n'y a pas de traces de sacrifices humains au Japon? On vous dit, donc les historiens et les archéologues reprennent la parole et disent, sans doute, les auteurs du Nihon Shoki, un ouvrage d'histoire du Japon, donc c'est bien l'histoire du Japon qui est racontée, mais qui est racontée en chinois, avec la langue chinoise, et qui est racontée en fait en ayant en tête le modèle de l'histoire écrite telle... Enfin, pardon, excusez-moi, je ne suis pas très claire. Donc elle est écrite en chinois, et en plus elle est écrite comme on écrivait les histoires de Chine en Chine. Autrement dit, le modèle chinois est très fort. Le modèle chinois a littéralement inspiré les auteurs du Nihon Shoki. Or, en Chine, il y a eu des sacrifices humains, on est sûr. Autrement dit, est-ce que les auteurs du Nihon Shoki n'ont pas voulu, en fait, imiter encore, là, le modèle chinois, jusqu'à prétendre que les Raniwa du Japon étaient, donc, des vestiges de sacrifices humains, comme ça se faisait, donc, sur le continent, pour avoir, eux aussi, leurs sacrifices humains. Voilà, c'est tout. Hypothèse. D'archéologues et d'historiens qui essayent de comprendre pourquoi le Nihon Shoki prétend qu'il s'agit de vestiges de sacrifices humains. Est-ce que d'abord j'ai été clair avant de répondre à la question? J'ai été clair? Donc c'est juste pour vous montrer qu'en histoire, non seulement les gens sont pas, les archéologues, historiens et autres ne sont pas d'accord entre eux, surtout si on fait entrer des gens comme des anthropologues ou des historiens de l'art, ça devient encore plus compliqué, mais en plus les sources peuvent contredire des réalités, donc il ne faut même pas se fier sur les sources, il ne faut même pas se fier aux sources, tout est assez compliqué. Mais il faut toujours poser, donc, mademoiselle. Et il faut toujours, en fait, mettre des points d'interrogation à tout ce qu'on dit, quasiment. Alors, j'ai vu des mains se lever, oui. Bah, allez donc voir le passage du Nihon Shoki qui en parle, il est traduit en anglais. On substitue une forme, un corps, un cadavre, à une représentation abstraite de ce cadavre, comme ça, tout simplement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, hein. C'est pas parce que ça date du 8e siècle que ces gens-là ont raison. Ils sont sans doute en pleine idéologie, donc ils rêvent d'être des Chinois, enfin pas d'être des Chinois, mais en tout cas ils imitent la Chine. Et essaie de retrouver des choses chinoises dans leur propre civilisation. C'est sans doute ce que ça veut dire, mais là encore, ce n'est qu'une hypothèse, hein, ce que je vous dis. Ce n'est qu'une hypothèse. Je prends une autre question et ensuite je continue. Allez-y, monsieur, je vous écoute.
Voici, si ce n'est pas important, on peut s'en passer, mais c'est plus vu le fait que la forme n'est pas symétrique.
Pourquoi cette quoi?
Parce que, vous voyez, la forme n'est pas symétrique, c'est comme si c'était un pied.
Quelle forme n'est pas symétrique? Qu'est-ce qui n'est pas symétrique avec vous?
La forme de ils sont dans une direction précise.
Ah, alors là, est-ce qu'ils sont dans une direction précise par rapport au nord, sud, etc.
Partout, les sites, enfin les.
Ah oui, d'accord. Bah écoutez, je vais vous apporter une réponse très pragmatique.
Pourtant, c'est pas grave.
Non, mais je peux au moins y répondre à peu près. Je suis pas spécialiste, donc c'est pragmatique. Je l'ai pas lu dans les livres, mais je l'ai vu sur la photo. C'est-à-dire que je vous ai dit que, par exemple, la tombe présumée de Nintoku est dans un paysage où il y a d'autres Kofun. Et moi, je les vois orientés de différentes façons. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire plus, mais je les vois orientés de différentes façons. Et dans ce site de Wakayama, en fait, je voyais bien que la porte de cette tombe était orientée aussi de différentes façons. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bon, alors on continue. Alors, cette société de Kofun, voilà, j'ai fini avec. Là, j'ai vraiment fini, vous savez tout sur les Kofun. Cette société, maintenant, c'est celle qui produit des Kofun, qui est sur le point d'ailleurs de cesser de les produire. Alors, oui, non, là c'est bien, je pense que je serai pas trop en retard. Ouais, je crois que c'est. Alors, donc je suis désolée, je pense que vous aurez pas de poste. De toute façon, c'est pas un droit, je vous l'avais dit, hein. C'est pas un droit. Il y aura des cours comme ça. Alors. Donc je disais, avant de vous dire que j'avais oublié de vous dire plein de choses, que ce que nous révèle les Kofun dans tout ça, en tout cas, c'est qu'il y avait des gens pour s'en construire et d'autres qui ne s'en construisaient pas. Évidemment, tout être humain habitant dans l'archipel au 6e, 7e siècle n'avait pas de Kofun, hein, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y avait ce qu'on va appeler des inégalités sociales, en reprenant donc une terminologie plutôt contemporaine. On aime bien en France parler d'inégalités sociales. Mais on a raison d'ailleurs, parce que d'ailleurs on n'en parle pas, il y en a quand même, mais bon, peu importe. Donc, des inégalités sociales, les uns pouvant se construire d'énormes Kofun, ça mobilise pas mal de gens quand même. Hein. Le fait de construire comme ça sur des dizaines de mètres et des centaines de mètres, ce genre de monument mobilise quand même beaucoup de gens. Et puis, je vous l'ai dit, quand c'est lié au réseau d'irrigation, ça veut dire que même la production agricole et l'organisation de la production agricole, et Dieu sait, c'est quelque chose d'important pour comprendre les rapports de force dans une civilisation, est lié en fait à ces Kofun. Donc ça veut dire que manifestement, ils sont réservés à des chefs, peut-être de moins en moins, avec le temps, mais ils sont quand même réservés à des gens importants. Il se trouve que cette société, telle qu'on la connaît, est effectivement une société fondamentalement inégalitaire. Bon, c'est pas un scoop, je pense que toutes les sociétés le sont, mais sachez que celle-ci l'est autant que les autres. Voilà, c'est au moins pour vous le dire. Alors, inégalitaire, je vais vous donner plusieurs exemples de ces inégalités diverses qui traversent la société de Kofun au 7e siècle. C'est, donc, on va commencer par, je dirais, ce qui marque une des ruptures les plus importantes entre les habitants de cet archipel, c'est l'existence d'une cour, soit donc on va dire deux gens qui dominent une partie des gens qui peuplent cet archipel. On parle également donc d'État. Vous savez les réserves que j'accorde à cette expression d'État, mais bon, comme on en parle, j'ai aucune raison de me distinguer de mes collègues. Et on associe donc à cette cour ou à cet état, ça revient à peu près au même, hein. Cour c'est chiotei, en japonais état c'est koka, c'est pas la peine de retenir ces mots japonais. On associe donc cette cour ou cet état à un lieu géographique particulier où elle, donc, à partir duquel elle rayonne, je dirais, sur presque l'ensemble de l'archipel, c'est le Yamato. Voilà, on parle d'état du Yamato ou de cour du Yamato, parce que cet état ou cette cour du Yamato a pour centre cette localité. Alors, comme je fais un cours d'initiation, je prends tout à la base. Pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve le Yamato, en fait, ça se trouve dans la péninsule du Kii, justement. Ça se trouve dans la péninsule du Kii, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la région du Yamato. Donc, regardez votre carte qui date quand même du 19e siècle. Et cette carte-là est une carte administrative. Hein. Mais cela dit, les régions correspondent souvent au découpage administratif. Donc le Yamato, ici, dans cette carte du 19e siècle, est défini en tant que province. C'est une des 60 et quelques provinces qui composaient le Japon au début du 19e siècle. Mais sachez que, en fait, c'est à la fin du 7e siècle qu'on définit ces provinces ainsi. Donc on n'est pas si loin, en fait. On n'est pas si hors sujet. Le Yamato, c'est le nom d'une province administrative, mais c'est aussi le nom, pour nous, on va dire archéologues du 7e siècle, le nom d'une région, tout simplement, comme il existe chez nous la Bretagne ou la Normandie, qui ne sont pas forcément des circonscriptions administratives. Il existe donc une région du Yamato. Donc ça, c'est le deuxième sens de ce toponyme. Donc c'est à la fois le nom d'une circonscription administrative, très vite, dès la fin du 7e siècle. C'est le nom d'une région, ça se trouve dans le même coin, bien sûr. Hein. Et troisième chose, c'est le nom du Japon également. Pourquoi? Parce que comme cette cour est censée dominer l'ensemble de l'archipel, on a donc donné à l'ensemble de l'archipel le nom de la région qui le domine, celle du Yamato. Donc maintenant, vous savez où c'est, vous remarquerez que c'est au 19e siècle, grosso modo, au centre géographique de l'archipel. Alors, la cour du Yamato, l'état du Yamato, c'est l'exemple même de ces inégalités, c'est-à-dire du fait que les uns dominent et les autres sont dominés au sein de ce Japon de Kofun. Là, vous faites attention à ce que je dis. Cette époque de Kofun, donc, qui se définit par le fait que du 3e à la fin du 7e, on construit des Kofun, c'est aussi, à partir du moment où la cour ou l'état du Yamato apparaît, c'est aussi l'époque de la cour ou de l'état du Yamato, d'accord? Donc on peut définir de plusieurs façons cette époque. Il se trouve que c'est à partir de la fin du 4e siècle que les historiens croient deviner l'existence de cette cour du Yamato, à la fin du 4e. À la fin du 4e, nous sommes déjà dans Kofun, hein, soit dit en passant. Donc cet état ou cette cour du Yamato, en fait, existe depuis la fin, et vraiment la fin, pas le début, du 4e siècle. Et c'est une autre façon, finalement, de définir cette époque de Kofun. Kofun est définie sur le plan archéologique. L'époque de la cour de Yamato est définie sur le plan politique. Qui domine? Bon. Alors, en fait, on a à peu près l'assurance que cette cour de Yamato, donc un pouvoir, existe là, dans cette région du Japon, assez puissant pour dominer, je dirais, l'essentiel de l'archipel que j'avais donc fait figurer au tableau tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, du 4e siècle jusqu'au 7e siècle, là où nous sommes, l'essentiel, pas la totalité, mais l'essentiel du Kyushu, la totalité du Shikoku, et je dirais, au 7e siècle, la plus grande partie du Japon, on va dire du Sud, si on conçoit qu'il y a un Japon du Sud et un Japon du Nord. Faites attention parce que les Japonais ne parlent jamais du Japon du Sud et du Japon du Nord. Eux, ils parlent toujours d'un Japon de l'Est et d'un Japon de l'Ouest. Mais en fait, nous, on fait exactement ce qu'on veut. Et si je coupe comme... Non, mais enfin, pas nous en tant que Français, mais nous en tant qu'historiens, vous faites ce que vous voulez. Cette distinction entre Japon de l'Est et Japon de l'Ouest existe depuis le XVIIe siècle parce qu'il y avait Edo et il y avait Osaka, mais en fait, et donc elle est profondément incrustée dans la mentalité des Japonais, mais après elle vaut ce qu'elle veut, hein. C'est comme nous avec notre France du Nord, au nord de la Loire, France du Sud, si vous voulez penser autrement l'histoire culturelle de la France, vous la pensez autrement, vous faites ce que vous voulez. Bref. Donc, là c'était juste donc, pour vous dire qu'un Japonais ne peut que tiquer quand il entend Japon du Nord, Japon du Sud, alors qu'on ne parle que de Japon de l'Est et de l'Ouest. Tout est relatif, on fait ce qu'on veut. Donc en fait, cette cour du Yamato, du 4e au 7e, là où nous sommes, donc jusque dans les années 690 et quelques, je dirais, domine une bonne partie de l'île de Honshu. En fait, pour tout vous dire, parce qu'après, je vous dirais qu'à partir de 645, on grignote de plus en plus vers le nord. Donc, disons, à la fin du 7e siècle, une bonne partie du Honshu quand même, hein, plus que la moitié du Honshu, peut-être les trois quarts. Voilà. Donc, cette cour dominerait, la cour du Yamato dominerait, donc, au 7e siècle, le Japon que nous connaissons aujourd'hui. Alors, cette cour de Yamato a fait rêver beaucoup les uns et les autres, parce que, en fait, son histoire est entachée de mystère, c'est assez étrange. Cette cour de Yamato, je vous le signale quand même, parce que c'est quand même très important, c'est ce qui est censé être l'ancêtre de l'institution impériale actuelle. Donc, c'est pas n'importe quoi dont je vous parle. Hein. C'est pas une cour qui aurait existé là au 4e et au 7e siècle, et puis qui ensuite aurait été remplacée par je ne sais quelle autre organisation politique. C'est, nous disent les Japonais, c'est l'ancêtre de l'institution impériale contemporaine. Donc, ce n'est pas rien, ce dont je vous parle. Elle apparaît au 4e siècle. En fait, je vous parlais de mystère, parce qu'on ne sait absolument pas comment elle apparaît là, à la fin du 4e siècle, dans ce Japon. On est sûr qu'il y a un pouvoir très fort qui domine l'ensemble de l'archipel au 4e siècle, puis au 5e siècle, le pouvoir de cette cour se consolidant encore au 6e et au 7e siècle, pour donner finalement ce que nous connaissons comme étant l'institution impériale antique, mais on ne sait absolument pas comment elle est apparue à la fin du 4e siècle. On ne sait pas. On a des preuves qu'elle est là à la fin du 4e siècle. On ne sait pas comment elle est apparue. Alors, on a imaginé beaucoup de choses, bien sûr, puisque on est encore à l'époque des archéologues, donc les archéologues imaginent beaucoup de choses. Et l'un d'entre eux a avancé une théorie qui a fait couler énormément d'encre, qui, donc j'insiste là avant de donner un nom et de donner des détails sur cette théorie, elle est totalement obsolète aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a abandonnée. Mais il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment abandonnée. Et je suppose que mon collègue, par exemple, M. Nespoulos, qui doit faire le cours avant moi, qui est plutôt archéologue, lui, hein, dans son genre, hurlerait de savoir qu'on parle encore de cette fameuse théorie qui a été abandonnée. Bon, mais cela dit, il n'y en a pas d'autre. Alors, et puis en plus, elle est drôlement connue. Voilà. Donc c'est un peu... ça n'a rien à voir, mais... Vous avez des lieux communs comme ça qui nous traversent et comment dire. Non, ça n'a rien à voir. Mais je vais prendre du temps. Non, je pensais à. Non, ça n'a rien à voir. Au cheval blanc d'Henri IV ou à la culotte de Dagobert qui est à l'envers. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de cette théorie au Japon. Vous n'avez aucune raison de ne pas en avoir entendu parler, même si n'importe qui, n'importe quel archéologue contemporain vous dirait que ce n'est plus d'usage. N'empêche qu'il n'y a que celle-ci qui est satisfait à un moment les intellectuels. Alors, cette théorie, c'est celle donc Kiba Minzoku, voilà, je ne me trompe pas. C'est la théorie des Kiba Minzoku, je vous explique dans un instant ce que ça veut dire, qui a été donc avancée par un archéologue dont le nom est Egami Namio. Je vous rappelle que nous sommes au Japon et que les noms personnels suivent les patronymes et qu'il serait bien que dans vos devoirs, vous évitiez de mettre les noms personnels à la française avant les patronymes, d'accord ? Donc Egami, c'est son nom de famille et Namio, c'est son petit nom à ce monsieur, Egami Namio, qui donc avance la théorie du Kiba Minzoku. Des Kiba Minzoku. Minzoku, ça veut dire peuple, en japonais, un peuple. Enfin, il y a d'autres façons de dire peuple, bien sûr, mais il y a au moins celle-ci. Minzoku, un peuple. Et Kiba, c'est le cavalier, celui qui est à cheval. Kiba, c'est celui qui est à cheval. Donc, Kiba Minzoku, le peuple des cavaliers. C'est ce qu'il a trouvé pour, en fait, c'est ce qu'il a trouvé pour expliquer l'apparition, là, à la fin du 4e siècle, dans cette région du Yamato, d'une cour qui sera promise, enfin, qui aura un avenir quand même assez extraordinaire, puisque aujourd'hui encore, vous le savez, avec le Nengo, on continue de se soumettre à l'ère promulguée par l'empereur à chacun de... à son avènement. Alors, Kiba Minzoku, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que... Pour expliquer donc l'apparition de cette cour à la fin du 4e siècle, là, dans le Yamato, en fait, Namio est allé... Egami est allé... Quoique... Oui, enfin... Non. J'allais vous dire que c'est vrai qu'on ne le fait plus maintenant pour les gens contemporains, mais jusqu'au 19e siècle, quand vous parlez de quelqu'un au Japon, un grand intellectuel ou un grand personnage, vous utilisez son prénom et pas son nom de famille, bizarrement. C'est bizarre. Donc, mais cela dit, lui, c'est quelqu'un d'après-guerre quand même, donc on l'appelle pas Namio, quoi. Au contraire, les hommes japonais contemporains sont vraiment très très allergiques à leur nom personnel. Voilà, je vous le dis, mesdames, messieurs, surtout n'appelez jamais un homme japonais par son prénom, ou alors il faut vraiment que vous ayez des relations intimes avec lui, ils n'aiment pas ça. Mais en fait, c'est bizarre, parce que pendant toute l'histoire, on a appelé les gens par leur prénom. Bref, ça c'est vraiment le genre de digression qu'il ne faut pas que je fasse. Mais bon, c'est pour votre gouverne personnelle. Alors, Namio, non, ben voilà, c'est pas grave, vous avez compris. Egami Namio pense que cette cour-là, présente à la fin du IVe siècle, en fait, est d'origine étrangère. Je vous soulignerai un peu plus tard le caractère totalement subversif de sa thèse. Donc, d'origine étrangère. Des peuples, donc, qui avaient l'habitude d'être à cheval et de vivre à cheval, etc., venant du nord-est de l'Asie, quelque part vers la Sibérie, par exemple. En fait, après lui, on a proposé plusieurs origines étrangères. Hein. Le centre, le sud, l'est, l'ouest de l'Asie, peu importe. Lui, c'était plutôt le nord-est de l'Asie, quelque part vers la Sibérie, mais il y avait vraiment eu des déclinaisons très importantes de sa thèse originelle. Ouais. Serait descendu, donc, de ce nord de l'Asie vers le sud. Se serait installé un temps vers le IVe siècle dans la péninsule de Corée, plutôt au sud de la péninsule de Corée. De cette péninsule de Corée serait passé donc dans le Kyushu, au nord du Kyushu. S'y serait installé un temps, c'est-à-dire en fait aurait pacifié, c'est-à-dire quand on dit pacifié en histoire, aurait massacré un peu, c'est-à-dire en fait se serait imposé, c'est ce que ça veut dire pacifié, hein, bizarrement en histoire, et du Kyushu serait passé au Honshu en remontant progressivement vers le nord et en s'arrêtant vers le dans le Yamato. Voilà comment il explique, lui, qu'à la fin du IVe siècle, on est un peuple dominant dans cette partie du Japon qu'on appelle le Yamato. Des gens arrivant de l'extérieur s'incrustant, s'imposant militairement. Hein. C'était des guerriers, c'était pas seulement des hommes à cheval, c'était aussi des guerriers s'imposant donc sur l'archipel. Alors, bon, là, vous recevez tout ça d'un œil distrait. C'est assez extraordinaire quand même comme théorie. Parce que c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que nous sommes en train de parler des origines de la famille impériale, quand même. Donc, si on résume tout ce que je viens de dire, selon Egami Namio, les origines de la famille impériale seraient étrangères. Donc, je vais formuler les choses autrement, ne seraient pas japonais. Ces gens-là, au départ, n'auraient pas été japonais. Bon, ça ne vous émeut pas plus que ça, mais ce qui est, enfin moi ça m'émeut toujours, ce qui est extraordinaire c'est que sa théorie d'Ekiba Minzoku, il a quand même sorti à un moment légèrement délicat de l'histoire du Japon, soit en 1948 à l'occasion d'un colloque, c'est là donc que sa théorie d'Ekiba Minzoku a été présentée, et 1948, si vous faites bien le calcul, c'est quand même juste 3 ans après que 2 bombes atteignent donc respectivement Hiroshima et Nagasaki. C'est 3 ans après que le Japon est capitulé, et c'est, ça vient en fait terminer un peu bizarrement une longue histoire d'impérialisme et de colonialisme japonais dont tous les peuples d'Asie se souviennent encore. Autrement dit, il a sorti je pense pas qu'il aurait pu sortir ça avant 45, quoi. En tout cas, avant la capitulation. Je pense pas, parce que c'était légèrement en contradiction avec les thèses officielles qui voulaient que les Japonais soient une race supérieure, soient uniques au monde, soient surgis de nulle part, genre génération spontanée. Et lui, voilà, qui nous dit, et qui se battent pour leur empereur jusqu'à la fin, les kamikazes, etc. Et voilà qui nous dit en 1948, la famille impériale est des origines étrangères. C'est là le petit caractère subversif, vraiment subversif. Bon, alors ça a fait couler beaucoup d'encre. Parce que c'était quand même la seule chose qu'on avait à se mettre sous la dent pour expliquer l'apparition de la famille impériale, justement, à la fin du IVe siècle. Donc une apparition, on va dire, étrangère, en plus militaire. C'est-à-dire que là, ce sont des gens qui s'imposent et qui expliquent la domination de ce centre, donc, du Yamato au 5e, 6e et au-delà, bien sûr. Alors juste, une chose. Egami Namio est fondamentalement un archéologue. Ça veut dire que pour bâtir sa thèse, il s'est appuyé sur un certain nombre de vestiges archéologiques. Et en gros, son idée, c'était que il avait retrouvé, ou il croyait avoir retrouvé, dans les vestiges japonais qu'il avait donc investis dans les années précédentes, des éléments qui étaient vraiment très similaires. Donc des éléments, par exemple, bah justement, des harnais de chevaux de cette époque de Kofun, qui se retrouvaient donc dans les tombes, par exemple, qui étaient vraiment très similaires à ce qu'on retrouvait en Asie du Nord-Est. Et de là, il s'est dit, donc c'est un argument parmi d'autres, mais de là, il s'est dit, une telle similarité ne peut s'expliquer que par une invasion, une conquête de gens qui sont revenus de l'extérieur, auraient imposé leur culture, leur civilisation aux autochtones, donc, qui étaient là, soit les Japonais, et c'est comme ça que c'est un des fondements de sa théorie. En fait, je vous l'ai dit, ça fait couler beaucoup beaucoup d'encre, mais on a aussi beaucoup rejeté cette théorie, si bien que maintenant, sur cet argument en particulier, on pense qu'il y aurait simplement une imitation. C'est-à-dire que si on retrouve bien dans les sous-sols japonais des choses qui ressemblent à ce qu'on peut trouver ailleurs, en Corée, en Asie, du Nord-Est, c'est simplement parce que les gens, donc les Japonais de l'époque de Kofun, ont imité, sans qu'il y ait forcément une invasion étrangère. D'accord ? Donc là encore, vous voyez, avec des choses comme la théorie d'Ekiba Minzoku, de Egami, nous sommes encore dans ces eaux archéologiques où vous avez quand même des enjeux politiques et idéologiques très contemporains, très puissants derrière, vraiment très puissants derrière. Et là encore, je résume, la famille impériale japonaise ne serait pas japonaise, voyez-vous, un peu. Et puis alors après, ce genre de thème, d'ailleurs, va faire réfléchir également les historiens. On verra par exemple qu'une grande famille comme les Fujiwara, on s'est interrogé, on s'est demandé si elle n'était pas coréenne. Encore une fois, même les historiens donc, ont des choses à défendre sur le plan idéologique pour défendre des positions contemporaines et utilisent l'histoire à tort ou à raison, parfois à raison, soit dit en passant, mais voilà, c'est pour vous dire que dans ma présentation consensuelle de l'histoire du Japon, en fait, je passe assez souvent, pas toujours, parce que là, c'est trop gros quand même pour ne pas être dit, mais je passe assez souvent sur tous les aspects idéologiques et politiques de ce qu'on vous présente comme étant des théories historiennes qui sont bien souvent, en fait, des choses très, très politiques. Il est 5h moins le quart, c'est ça, hein? Et donc on a fini.
Non, 5h.
J'ai vraiment la chance de je vous laisse pas de pause. J'y vais. Non, parce que là, j'ai vraiment la chance de pouvoir... Non, allez-y, j'ai un quart d'heure, c'est bon, j'ai 2 minutes à vous donner.
Juste simplement, qu'est-ce qui fait qu'on a réfuté cette thèse et que maintenant...
Plein de choses. Ben, par exemple, cette idée que... Cette idée que ces vestiges, en fait, on les trouve au Japon tout simplement parce qu'on a imité, parce que le Japon a imité l'extérieur. Et puis en ce qui concerne la péninsule, alors, comment dire, la péninsule coréenne, ces gens-là, Kiba Mizoku, qui se seraient installés dans la péninsule coréenne, en fait, tout est un peu lié à une théorie qu'on verra un peu plus tard, qui est celle d'une soi-disant colonie japonaise qui aurait existé en Corée, et qui en fait serait l'antithèse de cette... je vous expliquerai ça quand je vous parlerai de la Corée. Parce qu'en fait, ces gens-là se sont arrêtés en Corée. Et les liens qu'on a trouvés entre les Coréens et les Japonais ont à voir avec cette théorie du Kiba Minzoku. Oui. Alors, monsieur, on ne vous entend pas parler plus fort, là, parce qu'il n'y a que moi que ça concerne. Allez-y, plus fort. Elle est assez simple, celle-ci, hein, déjà. Une théorie plus simpliste, oui. Non, moi, j'ai rien dit, hein, c'est lui qui dit. Oui. Ah oui, pourquoi pas une famille japonaise qui... Oui, oui. Alors, pourquoi pas? Donc, vous n'avez pas tout à fait compris. C'est vrai que les archéologues et les historiens défendent souvent des choses idéologiques et politiques contemporaines. Bon, mais ils le font toujours à partir de choses, comment dire, matérielles, de preuves, de vestiges. Donc il dit pas n'importe quoi, Egami Namio. Il interprète simplement d'une certaine façon, il dit pas n'importe quoi. Mais vous allez voir ce que je vais vous dire là, sur les clans et sur la façon dont ils fonctionnent, peut très bien s'accorder avec ce que vous dites, à savoir l'idée qu'un clan plus puissant que les autres, ce serait tout naturellement, entre guillemets, si le mot nature veut dire quelque chose en histoire, imposé, comme ça s'est fait partout. Un clan plus puissant, avec de bonnes raisons de s'imposer, s'impose au Japon, point. Sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une théorie donc, d'un peuple étranger, bien sûr. Oui, c'est ce que pensent les gens, la majorité. Donc, en fait, réfuter la thèse d'Egami, c'est privilégier ce que vous dites, à savoir l'idée qu'un clan plus important que les autres s'est imposé au Japon et qu'il est, lui, d'origine japonaise, si ça peut vraiment vouloir dire quelque chose à cette époque, sachant qu'il y a plein de gens qui viennent quand même de l'extérieur. Oui, non. Alors, après le cours, si vous voulez bien, parce que j'aimerais bien finir. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que c'est pas un problème. Vous posez beaucoup plus de questions que l'autre groupe. C'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que c'est ce qui explique aussi mes retards. Donc, je prends toutes vos questions, mais à la fin du cours, si vous le permettez, je voudrais vraiment arriver là où on en était avec les autres. Vous m'en voulez pas trop, c'est bon. Je gère, hein, comme je peux. Sinon, après, je me retrouve avec des heures de décalage entre les deux cours et c'est pas possible. Alors, cette société de Kofun. Voilà. Donc, maintenant, vous savez que. Bon, on se mouille pas trop parce que finalement, nous, on s'intéresse au Japon à partir de l'an 600, donc au 7e siècle. Alors finalement, ça nous intéresse peu de savoir comment elle est apparue, cette cour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'en l'an 600, elle est là, qu'elle est assez puissante pour donc dominer une grande partie de l'archipel, tout de même. Et c'est-à-dire, en fait, s'imposer sur les communautés qui règnent à cette époque. Alors, pour comprendre cette société et son fonctionnement, un mot est essentiel à retenir, c'est celui de Uchi, qui signifie clan. C'est comme ça qu'on comprend en fait à la fois donc, le fonctionnement de cette société et qu'on comprend pourquoi peut-être s'est imposé un clan sur un autre. Donc cette société est une société de clan, Uji. Peu importe d'où ils viennent, ils sont là, présents, au VIe siècle. Alors, plusieurs choses à dire sur ces Uji. Donc ça veut dire clan. Hein. Ce sont des clans familiaux. Donc ça veut dire que les gens qui sont rattachés à un même Uji sont liés par, excusez-moi pour le pléonasme, mais c'est pas grave, c'est pédagogique, par des liens familiaux. Donc vous imaginez toutes sortes de choses, toutes sortes de liens familiaux. Pas seulement les parents qui engendrent les enfants, qui engendrent les petits-enfants, etc., mais toutes sortes de liens familiaux. Vous comprenez les mariages, donc, enfin mariages, les alliances, donc de gens qui appartiennent à des groupes donc différents. Vous comprenez également les adoptions. Bien sûr, quelqu'un qui va être adopté dans un clan. Donc, c'est vraiment au sens très large du terme. Mais fondamentalement, ça reste quand même des clans familiaux que ces Uji. Alors, je dirais que le terme de Uji vaut uniquement, et c'est vraiment très important de savoir, le terme de Uji vaut uniquement pour les clans qui ont, d'une façon ou d'une autre, un rapport avec cette cour du Yamato. Uniquement. Donc, je vais dire les choses autrement. Vous pouvez avoir, notamment dans les zones qui ne sont pas encore conquises par la cour du Yamato, par exemple au sud de Kyushu ou au nord de Honshu, vous pouvez avoir des communautés, des sociétés, des clans, bref, des gens, quoi. Mais cela, les historiens, les archéologues ne les appellent pas Uji parce qu'ils ne sont pas liés, c'est-à-dire en fait ils ne sont pas soumis à la cour du Yamato. Donc Uji, c'est l'ensemble des clans familiaux qui sont liés à notre cour du Yamato, et uniquement ceux-là, pas les autres, pas ceux qui sont pas liés, pas ceux qui refusent. Mesdemoiselles, vous avez une question ? Et donc ça c'est important, sinon vous faites un contresens historique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez pas toute la société de l'époque avec ce seul concept de Uji. Oui. Oui, oui. Ça peut être les deux, mais dans tous les cas, ce sont des liens de soumission. Ce sont des liens de soumission. La cour du Yamato est elle-même un clan, en fait. C'est pour ça que État me paraît un peu problématique, parce que fondamentalement, cette cour du Yamato, c'est quoi ? C'est des gens qui constituent un clan et qui dominent les autres clans. Si, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La cour du Yamato est le premier de tous ces clans. Voilà. Et elle domine parce que les autres acceptent, ou bien parce qu'ils y ont été contraints, ou bien parce qu'on leur promet un tas de choses, ils acceptent cette soumission. Et quand ils ne l'acceptent plus, ils peuvent entrer en conflit militaire avec cette cour du Yamato, bien sûr. Mais quand on arrive au VIe siècle, là, on ne se pose pas le problème des origines des relations entre ces différents clans. Ils existent tels quels, et un domine, les autres acceptent généralement sa domination. Alors, ce sont des clans familiaux assez complexes, en fait, que ces Uji, en ce sens que vous ne devez en aucun cas imaginer ce qu'on peut voir, je ne sais pas, chez les Indiens, ou, enfin, je dis n'importe quoi, ou même dans notre bonne vieille France, à savoir le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, c'est pas du tout comme ça. Hein. En fait, à chaque fois qu'on parlera de clan ou de famille dans ce Japon traditionnel jusqu'au 19e siècle, vous imaginez plutôt des nébuleuses, c'est-à-dire des gens qui sont bien liés d'une façon ou d'une autre sur la base de liens familiaux, mais qui constituent en fait plusieurs branches. Un Uji, c'est plusieurs branches, d'accord ? Plusieurs branches familiales qui sont liées entre elles et qui ont pour poids commun notamment un chef. Donc un Uji est composé de plusieurs branches et toutes ces branches ont en commun un chef, un unique chef. Ce chef, qu'il appartienne à la cour du Yamato ou qu'il appartienne à un autre Uji, on l'appelle, les historiens l'appellent un Uji no Kami, donc un chef de clan. Un chef d'Uji. Kami, vous connaissez ce mot, bien sûr, parce que là, je crois quand même. D'ailleurs, je ne fais même pas de sondage parce que je serais trop... Vous savez tous ce qu'est un Kami, c'est-à-dire ces fameuses divinités soi-disant japonaises et nationales. Mais Kami, ça ne veut rien dire d'autre que supérieur, même dans le sens religieux. Et donc, il n'est pas très étonnant. Qu'est-ce que j'ai dit ? Uji, j'ai écrit en plus. Uji no Kami. Non, c'est Uji et Uchi, c'est bien différent, bien différent. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc un chef de clan. Plusieurs clans. Je sais plus ce que je disais avant.
Que les familles, c'était des dieux.
Ah oui, non. Je vous disais que tout le monde connaissait le terme de Camille, et que Camille, sur le plan religieux, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça veut dire simplement supérieur. C'est un être supérieur, un Camille, c'est tout. On va dire divinité en français, mais étymologiquement, je dirais en japonais, c'est supérieur. Donc là, il n'est pas très étonnant de retrouver ce terme de Camille pour désigner un chef de clan, puisque c'est celui qui est supérieur dans le clan. Uji no Kami, un chef de clan. Donc, je vous rappelle, c'est très important, la cour du Yamato n'est rien d'autre qu'un clan. C'est rien d'autre que ça. On dit état, on dit cour, mais c'est un clan. Il se trouve que ce clan a passé des alliances avec de plus privilégiés, avec d'autres clans, pas trop nombreux, qui sont autour de lui. Et c'est ensemble qu'ils gouvernent et qu'ils dominent le Japon. Bon. Alors, je continue sur la présentation de cette société. Ces chefs de clan, lorsqu'ils appartiennent donc au clan dominant, à la cour du Yamato, ils ont un titre particulier qui est celui-ci. Évidemment, au 7e siècle, donc, je vous l'ai dit, enfin, évidemment, c'est pas évident pour vous, ça l'est pour moi. On n'est pas encore dans une société impériale. On n'a pas encore copié le modèle chinois pour ses institutions politiques. On est dans une société japonaise qui fonctionne avec des modèles autochtones. Et il se trouve que le chef du clan dominant, celui qu'on appellera plus tard l'empereur, porte le titre de Ōkimi, qui, vous le voyez, est bien Ōkimi, c'est bien japonais. C'est bien un Yamato Kotoba, c'est un mot du Japon. Ōkimi, c'est donc le titre du chef du clan dominant. Les autres, il n'y en a qu'un qui porte le titre de Ōkimi, hein. Les autres portent d'autres titres. Alors, donc ce Ōkimi partage quand même certains points communs avec les autres chefs de clan. Il a un pouvoir, on va dire, indifférencié. Pas de séparation du pouvoir, des pouvoirs dans cette société ancienne. Hein. Pas de séparation du pouvoir. Donc ça veut dire que tous les chefs de clan, Ōkimi et autres, sont à la fois des chefs religieux, des chefs qui ont des fonctions de juge, qui ont des fonctions militaires, qui ont des fonctions d'administration, entre guillemets. C'est un peu comme le mot état, hein. Là, on marche un peu sur des œufs. Ils ont tous les pouvoirs, en quelque sorte. Et ce n'est pas très étonnant, il n'y a que dans les sociétés où l'État est très puissant et très développé qu'il y a séparation des pouvoirs. Mesdemoiselles, je ne vais pas vous dire de sortir à 10 minutes de la fin. Donc en fait, voilà, donc il y a des pouvoirs qui sont concentrés. Dans les pouvoirs religieux, vous notez donc cette expression, d'ailleurs j'ai oublié de le dire aux autres étudiants hier, mais c'est pas grave, je leur dirai la semaine prochaine. Vous notez qu'ils sont plus particulièrement donc amenés à vouer un culte à une divinité, un kami parmi d'autres, une divinité parmi d'autres. Donc il y a des myriades de kami à cette époque, on croit en des myriades de kami. Simplement, il y a toujours une divinité qui est privilégiée dans un clan, dans un uji, et cette divinité du clan, donc, qui est censée protéger le clan, et que les uji no kami sont censés donc vénérer, on l'appelle ujigami. Les historiens l'appellent ujigami, une divinité du clan. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en 2 minutes? Bon, en 2 minutes, c'est-à-dire que là, ça va être je donne les informations à la mitraillette. Juste 3 raisons pour expliquer, et je serai en retard en plus. 3 raisons pour expliquer donc que ce Ōkimi domine les autres clans. Pourquoi? Comment expliquer au 7e siècle? Comment expliquer donc sa domination? Donc, à la mitraillette, je dirais que, première chose, des raisons économiques, bien sûr, je l'ai déjà dit une fois et je le redirai toujours dans ce cours, vous n'expliquez pas le pouvoir politique de quelqu'un sans passer par l'économique, c'est impossible. Si vous n'avez pas les fondements économiques, si vous ne maîtrisez pas la production, les circuits de circulation de cette production, etc., vous ne maîtrisez rien, vous ne dominez rien. Donc, il est toujours essentiel, pour comprendre la domination de quelqu'un ou d'un groupe, d'une classe, de passer par l'économique. Ici, le mot « miyake » sert à résumer donc ce pouvoir économique. Miyake, ça veut dire textuellement un bâtiment de stockage. Miyake signifie donc bâtiment de stockage. Mais en fait, d'un point de vue plus général, pour nous autres historiens, miyake, c'est l'ensemble des centres de production. Ce sont des centres de production, donc on produit des choses, notamment en matière agricole, et plus précisément encore du riz. Le riz est très important dans ces centres de production. Donc ce sont bien des territoires où l'on produit un certain nombre de choses, où l'on stocke ces productions, qui sont réparties un peu partout dans l'archipel et que contrôle directement le Ohokimi et son clan. C'est ça qui fait son pouvoir. C'est-à-dire que d'autres clans, bien sûr, ont aussi à leur disposition un certain nombre de productions de territoire, etc. Mais les Miyake sont les plus importants, sont les plus nombreux et sont les plus diffus dans l'ensemble des territoires. Et c'est ça qui fait le pouvoir économique de nos futurs empereurs au 7e siècle. Deuxième chose, nos Ohokimi maîtrisent des relations avec l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire principalement, donc au 7e siècle, la Corée, on n'oubliera pas la Corée, d'ailleurs on va parler de la Corée assez précisément, et la Chine. Concrètement, ça veut dire que, bien sûr, il y a toujours des liens entre le continent et le Japon. Mais ceux qui monopolisent en quelque sorte ces liens, surtout officiellement, quand il y a des délégations, par exemple, qui partent et viennent donc du continent et de l'archipel, ce sont les Ohokimi et leur clan. Voilà. Donc, ils maîtrisent les relations internationales. Et troisième chose qui explique leur prépondérance dans l'archipel, c'est qu'ils ont à leur disposition le savoir qui vient du continent. Notamment parce que le Ujinokami du clan dominant et les quelques clans qui gravitent autour de lui et qui font partie de cette société dominante quand même ont des rapports avec les Coréens. Et avec les rapports qu'ils ont avec les Coréens, ils importent de Corée toute la culture venant de Chine, l'écriture, les techniques agricoles, etc. Alors, je termine juste donc cette séance pour vous dire que tout ce que je viens de vous dire, à savoir les Miyake, ces centres de production, d'une part, deux, le fait qu'on contrôle les relations avec l'extérieur, trois, le fait que l'on a des connaissances qui viennent de l'extérieur, en fait, mais on les a parce qu'on entretient des relations étroites avec les Coréens. Tout ça, c'est à la fois donc la cause de leur pouvoir, c'est la cause, c'est pour ça qu'ils ont du pouvoir. S'ils n'avaient pas tout ça, ils en auraient sans doute moins et ils ne domineraient pas l'archipel. Donc c'est à la fois la cause, mais c'est aussi bien sûr l'effet. C'est l'effet. C'est parce qu'ils ont des pouvoirs qui peuvent se permettre d'avoir des relations diplomatiques avec l'extérieur, qui peuvent se permettre d'inviter à leur cour des Coréens et qui peuvent se permettre d'avoir des gens qui vont entretenir travailler dans leur miyake. D'accord ? Donc c'est à la fois une cause de pouvoir et un effet de leur pouvoir. Et on s'arrête là-dessus.